Voici le journal de Marion Ferrer. Bonjour Marion.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, la diplomatie. Après la France, c'est Israël qui tente de dialoguer avec Moscou. On y revient après les autres titres, Marion.
Des combats extrêmement violents continuent à l'est de l'Ukraine, à Mariupol, où les civils n'ont pas pu être évacués. À Kiev, les habitants se préparent, la résistance creuse des tranchées. Reportage de nos envoyés spéciaux. J-36 en France, la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, enfin candidat déclaré, les militants sont sur le terrain. Et puis en sport, une nouvelle médaille aux Jeux Paralympiques cette nuit. Marie Bochet est en argent. En tennis, les Bleus qualifiés pour le prochain tour de la Coupe Davis. Et une nouvelle formule que nous explique Fabrice Abgral à la fin de ce journal.
Et nos invités à partir de 8h20, comprendre un peu mieux cette guerre en Ukraine, la situation entre Kiev et Moscou. Deux invités, Cécile Vessier, elle est professeure en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. Invité également Elie Tenenbaum, il est directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
France Inter.
Israël entre dans la danse des pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Moscou, puis Berlin et multiples coups de téléphone. Mini tournée diplomatique hier du premier ministre israélien Naftali Bennett. Ce dernier n'a d'ailleurs jamais condamné explicitement l'invasion russe. Et depuis plusieurs mois, Israël propose sa médiation dans cette crise devenue une véritable guerre en Europe. Frédéric Mettezo, vous êtes en direct de Jérusalem et pour l'instant, aucun changement dans l'attitude du président russe.
Non, aucun, malgré ce voyage surprise préparé dans le plus grand secret et effectué pendant Shabbat, le repos sacré pour les juifs religieux que Naftali Bennett respecte scrupuleusement, sauf en cas de crise majeure. À Moscou, il a donc rencontré Vladimir Poutine, avec pour traducteur le ministre israélien du logement, né à Kharkiv en Ukraine, mais ces 3 heures de discussion n'ont pas débouché sur des annonces concrètes. Selon les médias israéliens les mieux informés, Bennett a demandé l'ouverture de corridors humanitaires pour les Ukrainiens juifs. Avant cette rencontre, il a téléphoné à Emmanuel Macron et au conseiller américain à la sécurité nationale. Et après, il a eu 2 fois en ligne le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est juif et qui a appelé Israël à l'aide. Enfin, hier soir, le premier ministre israélien s'est rendu à Berlin pour dîner et faire le point avec Olaf Scholz. Cette première visite d'un dirigeant étranger à Vladimir Poutine depuis le début de la guerre n'a donc rien donné. Mais les canaux de discussion restent ouverts et surtout Israël a d'autres dossiers en tête, où la Russie est très impliquée, les négociations sur le nucléaire iranien et la situation en Syrie voisine.
Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem pour France Inter. Le président ukrainien Zelensky s'est aussi entretenu par téléphone hier avec Joe Biden au sujet de l'aide financière des États-Unis envers l'Ukraine. Les deux chefs d'État ont aussi discuté de la poursuite des sanctions contre la Russie. Les dernières sont justement tombées cette nuit. Visa et Mastercard suspendent leur opération dans le pays. Conséquence, les cartes émises par les banques russes ne fonctionneront plus à l'étranger d'ici quelques jours. Les cartes étrangères seront obsolètes également en Russie. De son côté, Vladimir Poutine, vous l'avez entendu, continue de menacer. Le chef du Kremlin considère toutes les mesures prises contre son pays comme des déclarations de guerre. Il affirme également que l'Ukraine pourrait perdre son statut d'État si elle continue à refuser de se plier aux exigences russes.
Et sur le front, en Ukraine, donc, Mariupol reste sous le feu des bombardements.
Le cessez-le-feu n'a jamais pu entrer en vigueur hier. L'évacuation des civils a été reportée face aux attaques russes et de violents combats sont en cours. Dans la capitale ukrainienne, en revanche, la situation semble se stabiliser. Mais dans les rues, les Ukrainiens, militaires ou civils, préparent la bataille de Kiev que les Russes pourraient lancer à tout moment. Scène qui nous rappelle les pires heures du continent européen. Des hommes creusent des tranchées dans la capitale. La résistance, Vanessa Descoureau, s'organise dans les tranchées.
Sur un grand axe au nord de Kiev, entre des centres commerciaux d'un côté, des bars d'immeubles populaires de l'autre, Yevgeny se distingue des autres hommes du quartier car lui, il n'a pas d'arme à la main. Il tient une pelle. Yevgeny creuse sa tranchée sur le terre-plein central de cette 2x2 voies. Cet ancien patron de bar construit son abri pour repousser les Russes et tenir la position.
On ne peut pas ne rien faire. Moi, par exemple, j'ai vu par la fenêtre que des gars creuser des tranchées. C'était le troisième jour de guerre. C'est rien de difficile. On creuse, on met le sable dans des sacs, on se défend, on attend l'ennemi.
La construction de cet abri qui rappelle une autre guerre, un autre siècle, a été décidée par Sergueï, le volontaire armé en charge des fortifications de ce secteur exposé.
La sécurité de nos hommes est la priorité principale. Plus on creuse profondément ces tranchées, plus ce sera sûr pour eux. Qu'importe si cela rappelle les Premières ou Deuxième Guerres mondiales, ce sont les règles de la guerre. Nous sommes tous de Kiev. Nous n'avons aucune raison de fuir.
Les autres volontaires désignés dans le quartier n'ont finalement pas pu aider Yevgeny. Ils ont tous été envoyés à la dernière minute à un entraînement au combat.
Vanessa Descours et Marc Garvenès, nos envoyés spéciaux à Kiev. Et pour le deuxième week-end consécutif, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour dire non à la guerre, stop à Poutine. Des cortèges aux quatre coins de la planète, plus de 40 000 personnes partout en France, dont 16 000 à Paris. Rassemblement également à Londres, Berlin, Varsovie, Rome, New York ou encore Zurich.
Et en France, depuis qu'Emmanuel Macron est officiellement candidat, voilà les marcheurs qui se mettent en ordre de marche.
Aucune surprise dans l'annonce du président, mais elle a lancé pour de bon la campagne de ses adhérents. C'est le cas à Lyon, bastion du macronisme. Les militants, Christophe Vincent, investissent les gros marchés de l'agglomération tout au long du week-end.
Bonjour madame, le bilan du président.
Oh, allez.
Non merci, sans façon.
Qui, ça ?
Emmanuel Macron.
Oui, non, ça va.
Entre les pro-Pécresse et les pro-Mélenchon, les macronistes comme Alan tractent dans un contexte clarifié.
On est vraiment dans la campagne, on a un très bon accueil. Pour l'instant, pour nous, tout roule. On a 36 jours pour convaincre le maximum de monde de voter Emmanuel Macron.
Sur le marché Saint-Antoine, on croise des fans de Macron et des allergiques.
On est ravis, il a les armes pour faire quelque chose.
C'est pas mon idole, mais il n'y a que lui.
Il a fait que 5 ans, il faut lui laisser un peu plus de chance.
Macron, c'est pas votre truc.
Pas du tout, mais il n'y en a aucun, je crois.
Ce sera jamais mon candidat, parce qu'il a laminé les huissiers de justice et que je ne le lui pardonnerai jamais.
La guerre en Ukraine change la donne, explique Raphaël Desfontaines, responsable de la mobilisation.
Il y a l'histoire des missiles nucléaires. Forcément, Emmanuel Macron, c'est un peu la première personne qui va défendre la France. On sent quand même que les gens soutiennent Emmanuel Macron dans ce traitement de la guerre.
Josie tracte pour un autre candidat.
Moi, c'est Fabien Roussel, Parti communiste. Je suis absolument pas d'accord avec Monsieur Macron, mais on va pas se battre sur les marchés. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, ça donne pas envie de se battre.
Ainsi va cette campagne très spéciale. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et Emmanuel Macron qui veut éviter toute polémique pendant sa campagne, la secrétaire d'État Nathalie Elimas, accusée de harcèlement moral, quitte le gouvernement. Annonce hier soir de l'Élysée. Une enquête administrative sur le fonctionnement de son cabinet a été ouverte après plusieurs accusations de la part de ses collaborateurs. Puis chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon est en meeting aujourd'hui à Lyon à 15h.
Les Jeux Paralympiques de Pékin avec une nouvelle médaille française.
Et c'est de l'argent pour Marie Brochet en ski alpin sur le Super G. Le camp tricolore compte pour le moment 3 médailles. En football, la 27e journée de Ligue 1, la très belle opération de Nice hier face au PSG, victoire 1-0 pour les Niçois qui prennent la deuxième place provisoire du championnat derrière les Parisiens. Autre résultat, Brest s'est imposé à Lens 1-0. 7 matchs aujourd'hui, Marseille reçoit en clôture Monaco, coup d'envoi à 20h45. Et puis en tennis, la France qualifiée pour la phase de poule de la Coupe des Les Bleus ont assuré leur place en battant hier en barrage l'Équateur, 3-0. La paire Herbert Maillot a gagné le point nécessaire pour la qualification. L'équipe de France continue donc son aventure en Coupe Davis, mais à quoi va ressembler la suite ? Fabrice Abgral, la formule change encore.
C'est la troisième formule en 3 ans depuis la réforme de la compétition en 2019. La Fédération internationale tâtonne, hésite, essaye tant bien que mal de trouver le meilleur format. Cette fois, après les barrages de ce week-end, il y aura une phase de poule qui regroupera en septembre prochain 16 pays répartis en 4 poules de 4. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour une phase finale organisée en novembre à Abu Dhabi. Ce sera une finale à 8 avec cette fois élimination directe à partir des quarts de finale. Pierre Hugerbert.
Tout ça est un peu flou. Je pense qu'ils essayent de trouver
la bonne solution. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rapproche de quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait dans l'ancien format. Mais on est loin des émotions qu'on a pu vivre par le passé. Enfin, je peux pas m'empêcher d'être hyper nostalgique de tout ce qu'on a vécu en France et de tout ce qu'il y avait à travers la Coupe Davis. Mais voilà, je vais essayer d'être positif et de me dire qu'elle peut renaître.
Le tirage au sort de la phase de poule aura lieu le 24 mars prochain. 4 poules de 4 équipes organisées dans 4 villes différentes. Reste à choisir les 4 lieux en question. Et pourquoi pas en France, à Roland-Garros ou ailleurs. La Fédération française a d'ores et déjà présenté un dossier de candidature.
Fabrice Abgral. Pour finir ce journal, ne l'oubliez surtout pas. Hein, aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Mélina Elig a suivi les préparatifs auprès de petits Normands du côté des petits-enfants.
Pour certains parents, c'est un choc.
Oh, c'est la fête des grands-mères.
Mais heureusement, il n'est pas encore trop tard.
Non, on va pas les voir, mais on va les appeler.
On va appeler Mouti pour lui dire « Bonne fête, Mouti !»
Et Noé, 3 ans, a aussi une petite idée pour Mouti.
Un petit cadeau.
Tu vas lui faire un petit cadeau ? Qu'est-ce que tu vas lui faire comme cadeau ?
Un dessin.
Qu'est-ce que tu aimes bien dessiner ?
J'en dessine des bonhommes.
Ces jeunes Rouennaises, elles, ont déjà tout préparé.
Un petit bouquet de fleurs, un petit gâteau pour faire plaisir.
Moi aussi, je vais lui ramener un petit bouquet de fleurs.
Enfin, moi, les fleurs, c'est un peu la pression parce que ma grand-mère, elle était fleuriste. Du coup, à chaque fois, on dit qu'il faut choisir le bon bouquet qui lui plaise et tout, mais chaque année.
D'autres vont perpétuer la tradition familiale.
Un repas dominical, comme tous les dimanches.
Donc ce sera un dimanche comme un autre.
Voilà.
Et d'autres vont y ajouter un petit quelque chose.
Bah, moi, là, je vais déjà chez elle chaque week-end. Là, peut-être, je prendrai un petit cadeau pour elle.
Ou pas. Et vous ?
Ma présence.
C'est déjà bien ?
Bah, c'est le meilleur.
Et bonne fête à toutes les mamies, quand ouais. même.
Mouti, mamie, j'ai entendu, grand-mère, mémère, chacun ira comme il voudra pour souhaiter une bonne fête à sa grand-mère. C'était le journal de Marion Ferrer. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Il y a une forte amplitude des températures ce matin entre l'Est et l'Ouest, Jean-Michel Golinski.
Actuellement, les valeurs sont positives sur la moitié ouest du pays autour de la Méditerranée. En revanche, les gelées sont fortes à l'Est, vers moins 4 près des frontières, moins 5 sur la Bourgogne, la Champagne et la Haute-Loire, moins 6 à moins 7 des Vosges à la Haute-Saône. Cet après-midi, les valeurs à l'abri du vent d'Est sensibles vont afficher 10 à 14 du sud-ouest à la Provence et sur la Corse et 8 à 10 plus au nord. Aujourd'hui, exception faite des régions Pyrénées où l'ambiance va rester maussade et des Alpes du Sud à la Corse où des averses vont mouliner une bonne partie de la journée. Sur le reste du pays, retour d'un temps sec et variablement ensoleillé après une matinée encore émaillée d'ondées éparses sur la façade atlantique.
Jean-Michel Golinski, Météo France.